Bienvenue sur notre podcast Vis-à-vis, le podcast du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Alors, ça fait un moment que cette deuxième saison a commencé. On est très content de donner la parole à chaque fois, soit à des agents de l'État, soit à des citoyens, pour montrer à quel point ce ministère de l'Intérieur et des Outre-mer est dans le quotidien des Français, à quel point il est sur le terrain, en proximité de tous, en fait. Et aujourd'hui, pour cette semaine spéciale qui commence sur les réseaux sociaux du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, on va parler ensemble de la lutte contre les discriminations. J'ai autour de moi deux femmes exceptionnelles. Alors, elles le sont intrinsèquement, mais elles le sont aussi par leur mission passionnante, parce qu'elles luttent ensemble et avec bien d'autres personnes. Elles vont tout nous expliquer contre les discriminations. Alors, cette semaine, il y a le 17 mai, c'est une date importante pour la lutte contre l'homophobie. Mais mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de parler de toutes les formes de discrimination, le handicap, le racisme, le sexisme. Et donc, on vous emmène avec nous pour parler ensemble de cette lutte contre les discriminations. Alors, on le sait tous, la discrimination, ce n'est pas une opinion, c'est puni par la loi. D'ailleurs, puni lourdement, hein, c'est un délit avec même une peine de prison. Mais ça n'empêche que dans notre réalité, dans le monde du travail, dans nos vies, on peut être confronté tous à des discriminations contre soi, où on observe des discriminations et des fois on ne sait pas forcément quoi faire, comment réagir et que faire autour de nous finalement quand on observe ce type de discrimination et finalement quel dispositif existe pour lutter contre ces discriminations. Je vais tout de suite permettre aux deux personnes avec moi autour de la table de se présenter. Je commence par vous, Fadela Benrabia. Vous êtes une des personnes les plus engagées dans ce ministère pour la lutte contre les discriminations. Vous êtes haut fonctionnaire à l'égalité des droits au sein du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours personnel et vos fonctions aujourd'hui? Comment on en arrive à traiter de ces questions?
Bonjour Camille, merci de cette invitation. Alors, mon parcours personnel, C'est un parcours qui commence d'abord par un engagement fort dans le tissu associatif d'ailleurs, toute jeune, plutôt sur les sujets d'éducation populaire, avec des associations qui œuvraient dans l'objectif de former, d'éduquer la jeunesse, pour qu'elle soit autonome et pleinement conscience des enjeux qui l'entouraient. Et puis c'est comme ça que j'ai rencontré l'État, puisque je me suis ensuite consacrée et j'ai été recrutée dans un établissement public de l'État autour des questions de l'immigration d'ailleurs et de l'intégration des populations immigrées en France. C'est l'État qui engageait, qui portait cette politique publique-là, et c'était un travail tout à fait passionnant de suivi des politiques publiques en direction des populations immigrées, leurs enfants, des familles de leurs enfants, mais aussi de la société française. Et donc là, déjà, on était dans quelque chose autour des enjeux d'égalité et de la lutte contre les discriminations, puisque l'intégration ne se fait que dans une démarche, on va dire, dialectique, à la fois l'intégration des personnes elles-mêmes et des familles et de leurs enfants, à travers toutes nos institutions, l'éducation, le travail. Et en même temps, de l'autre côté, il faut que nos institutions acceptent de regarder et de faire place, de faire une place à l'ensemble de ces populations, parce que ce sont des populations qui ont vocation à devenir pleinement françaises. Et c'est ce qui s'est passé, puisque cet établissement public n'existe plus, mais il avait été créé le lendemain de la guerre d'Algérie, comme une espèce de revers de la fin de la colonisation et comme une aide et une offre de service à l'intégration et à la fabrication d'un creuset français républicain. Voilà. Et puis donc voilà, ça c'est ma manière à moi de rentrer dans l'État et d'incarner des politiques publiques qui étaient portées au niveau national et au niveau territorial. Et puis chemin faisant, je me suis rapprochée évidemment des premiers représentants de l'État sur les territoires et des premiers acteurs des politiques publiques, que sont les préfets et le corps préfectoral. Et ceci m'a amené tout doucement à être préfète.
Vous êtes préfète aujourd'hui.
Voilà, et je suis au ministère de l'Intérieur actuellement et depuis 2 ans en charge de l'égalité des droits, de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations et tout ce que vous avez indiqué, c'est-à-dire les sujets d'inclusion des personnes en situation de handicap. L'enjeu pour moi et pour le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer étant que de faire évoluer nos pratiques, nos métiers, mais aussi nos représentations, pour que ce ministère soit à la hauteur de ce que les citoyens attendent de lui.
C'est quoi votre quotidien alors ? C'est quoi une journée de Fadela Benrabi ?
Vous avez compris à travers mon métier qu'il se situe et il s'adresse davantage aux agents eux-mêmes du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer que des populations directement. On part du principe que ce ministère, avec l'ensemble des métiers qui le composent, les forces de sécurité, la police, la gendarmerie, la sécurité civile, mais aussi l'administration. Et dans l'administration du ministère de l'Intérieur, vous avez l'administration territoriale. Eh bien, le service qui est rendu à la population, à travers notre présence, qu'elle soit nationale ou locale, doit être à la hauteur, je disais, de ce que les citoyens attendent de lui, c'est-à-dire... nous sommes aussi un employeur, nous avons une responsabilité, nous devons être exemplaires. Comme ministère aussi, on dit souvent, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer est un ministère de la crise et de l'urgence, parce que précisément à travers ses métiers de police, de gendarmerie, de sécurité civile, il porte secours, il protège, et dans cette mission de protection, il y a une forte charge d'exemplarité et on doit prendre en considération dans l'exercice de nos métiers, de tous nos métiers, prendre en considération et respecter les personnes, les citoyens, les citoyennes. Donc voilà, mon métier s'adresse davantage aux agents, quels qu'ils soient, pour les sensibiliser, les former, appeler à changer les pratiques, les conduire à être eux-mêmes acteurs, producteurs de changements, pour que ça se voit au niveau des citoyens. Et il n'y a rien de tel qu'un service public rendu dignement pour rendre dignes les agents eux-mêmes.
Alors je me tourne vers vous maintenant, Marie-Ange. Vous êtes donc le capitaine de gendarmerie Marie-Ange Duté. Vous êtes actuellement la référente nationale égalité professionnelle et diversité et aussi d'ailleurs formatrice sur ces questions d'égalité et de diversité. Est-ce que vous pouvez, de façon un peu analogue, vous présenter ? Est-ce que vous avez toujours fait ça ou comment on devient référente comme ça au niveau national pour une grande institution comme la gendarmerie ?
Je n'ai pas toujours fait ça. J'ai rejoint le réseau en 2012. Je fais partie des premières référentes égalité-diversité. Donc c'était un choix parce que j'avais vraiment le sens de l'autre. C'est important. Comme je dis toujours, il faut aimer les personnes, il faut aimer les gens pour être référent. Donc à l'époque, j'avais été formée à l'écoute active.
Mais alors, également... c'est quoi l'écoute ?
Alors l'écoute active, c'est apprendre à écouter les personnes, à la reformulation de façon à les mettre en confiance et souvent trouver des capteurs, un moyen de communiquer au mieux. Parce que lorsqu'une personne est discriminée, lorsqu'elle est en mal-être ou lorsqu'elle est en souffrance, ce n'est pas toujours facile de trouver un vecteur pour échanger avec elle. Donc c'est pour ça qu'on nous apprenait justement tout ce qui était écoute active. Parce que entendre, c'est bien, mais écouter, c'est mieux. Et en fait, on se rend compte que la plupart du temps, on entend. Mais on n'écoute pas vraiment.
Mais comment vous êtes rendu compte justement de ce que vous dites, qu'il fallait écouter et pas juste entendre ? Un jour, vous êtes dit, je dois être formée, il me manque un truc pour bien...
C'est ça, je me suis dit qu'il me fallait également des clés, comme tout le monde, parce que je savais entendre, mais au bout d'un moment, je suis honnête, j'avais tendance à aller voir ce qui se passait ailleurs, ou surtout, lors d'une discussion, à prendre la main en disant, tiens, mais moi, je fais ça. Moi,
voilà, tu devrais faire ça.
Tu devrais faire ci. Et puis surtout, à me projeter par rapport à mon propre vision, ma propre situation, pour essayer de donner des conseils. Et en fait, non, ce n'est pas le bon moment. Lorsque la personne vient se confier, ce n'est surtout pas le moment de lui donner des conseils. Il faut l'écouter. Et ça, je me suis rendu compte que je n'avais pas tous les leviers pour le faire. C'est pour ça que j'étais à l'époque formée.
Et vous étiez dans une structure de gendarmerie, une brigade de gendarmerie ? Vous étiez déjà au niveau national ?
Non, j'étais à l'époque à l'école des officiers de la gendarmerie nationale. J'étais au secrétariat, au cabinet. J'étais également dans la concertation, et surtout aussi dans les ressources humaines. Et il y avait des formations qui se faisaient donc par l'ARACT. Je ne sais plus exactement. Et c'est là, ça a commencé comme ça, je me suis intéressée. Après, j'ai été formée également par des psychologues cliniciens, psychologues du travail, pour toujours aller plus loin, pour comprendre l'autre, pour comprendre ces différences et travailler ensemble.
Et aujourd'hui, votre quotidien, c'est quoi? C'est d'écouter les personnes qui se sentent discriminées, leur faire verbaliser les choses? Ça, en quoi consistent vos missions en fait?
Alors aujourd'hui, je dirais que c'est encore un peu plus vaste. Bien sûr, je continue à écouter parce que je suis toujours référente égalité et diversité. Sauf que depuis donc 2017, je suis formatrice, c'est-à-dire que je forme les référents égalité et diversité, mais je suis également une ancienne coordonnatrice égalité et diversité, parce qu'au niveau de la gendarmerie, vous avez une référente nationale, vous avez des coordonnateurs au niveau de chaque formation administrative, vous avez également des référents égalité et diversité au niveau de chaque département et assimilé. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des référents à chaque niveau. Il y a une arborescente, une architecture qui permet à chacun de trouver une écoute active, une oreille attentive sur tout le territoire métropolitain et outre-mer.
Et donc les gendarmes de terrain savent que vous existez? Comment ça se passe?
Alors oui, absolument, parce que nous communiquons. Alors nous communiquons, mais en plus je me déplace au sein des territoires, parce que en fait, ce qu'il faut, c'est aller au plus près du terrain pour être vu, entendu et surtout reconnu. De façon à ce que les personnes savent qui on est réellement. Et d'ailleurs, je disais dernièrement, ça m'a fait sourire parce que lors du renouvellement des audits l'été dernier, je descends donc dans une région. Et là, l'auditrice voit un jeune gendarme, elle lui dit: mais est-ce que vous savez ce que sont les RAID, référents égalité, diversité? Et le jeune homme lui dit: RAID, c'est quoi? C'est du produit pour tuer les mouches. Voilà. Et là, je me dis: bon, Marie-Ange, j'ai encore du boulot.
Il y a encore du boulot.
Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument communiquer, il faut se déplacer. Et d'ailleurs, lorsque je fais les formations, nous sommes 26 formateurs relais sur le territoire métropolitain et outre-mer. Je demande à ce que les formations soient faites uniquement en présentiel. Alors qu'après, il y a des capsules vidéo, c'est super parce que ça nous permet d'avoir la matière, en fait, vous voyez. Mais ce qu'il faut surtout, c'est du présentiel. Il faut se voir, il faut des contacts. Parce que le e-learning, on a tendance au bout d'un moment, à lâcher. Et voilà. Ce n'est pas toujours facile.
Est-ce que les gens qui vous contactent, ils portent déjà les mots? Est-ce qu'ils se sentent juste qu'il y a quelque chose qui n'est pas admissible? Ou est-ce qu'ils arrivent à définir la discrimination dont ils font l'objet? C'est compliqué de mettre les bons mots sur tout ça. Je crois qu'il y a 25 discriminations dans le droit pénal aujourd'hui, c'est ça?
25 critères.
Oui. 25 critères, pardon.
Voilà, il y a 25 critères de discrimination reconnus par la loi, effectivement, auxquels on en ajoute deux au niveau pénal, qui sont le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Mais lorsqu'on se rapproche du défenseur des droits, il nous rappelle également qu'il y a d'autres critères, parmi lesquels, enfin, peut-être, hein, la glottophobie, me semble-t-il, qui est la discrimination par rapport aux accents. Mais donc, au niveau de la formation, on s'arrête sur les 25 critères de discrimination tels que reconnus par la loi et par le Code du travail. Et justement, on essaie d'apprendre un petit peu à nos personnels ce que sont ces critères. Parce qu'effectivement, lorsqu'une personne nous contacte, elle ne sait jamais si vraiment elle est discriminée ou si ça vient d'elle-même, si c'est intrinsèque, si c'est la façon dont elle entend ou elle reçoit les choses qu'elle interprète mal. Et ce n'est pas toujours facile parce que les personnes n'ont pas les bons codes, les bons leviers, les bons outils pour savoir. C'est d'ailleurs pour ça que depuis novembre, nous avons mis en place au sein de la gendarmerie un chatbot qui est égalité professionnelle et diversité.
On peut poser des questions dans
voilà,
la
ligne. H24.
Ok.
Voilà.
Et il sait répondre.
Et il sait
répondre. L'intelligence.
Alors justement, il sait répondre, mais au bout de 3 questions, s'il n'est pas en mesure de répondre, il y a un modérateur. Et en fait, les questions m'arrivent avec mon équipe. Et justement, nous traitons.
C'est pas qu'un robot, donc.
Non, et on s'engage à traiter donc en moins de 72 heures. Voilà.
Vous, ça a été naturel, finalement, comme vous intéressez aux ressources humaines, de vous intéresser à ces questions?
Absolument. C'est naturel pour moi, c'est humain, c'est avoir le sens de l'autre. À partir du moment où c'est qu'on fait des ressources humaines, on aime les personnes. Donc c'est pour ça, pour moi, il n'y a pas de sujet. Sachant qu'au niveau de mes anciennes fonctions, j'étais chef de section médico-statutaire. Donc j'accompagnais les personnes qui étaient victimes d'inaptitude, qui étaient malades, qui avaient déjà des problèmes de santé ou autres. Donc c'était vraiment important pour moi. Je pense qu'il faut avoir une certaine fibre, une sensibilité.
Pour vous, Fadela, est-ce qu'il y a une grande priorité parmi ces 25 critères au sein du ministère de l'Intérieur? Ou plusieurs d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on a encore beaucoup de chemin, on se retrousse les manches vraiment pour être plus actif?
En réalité, l'existence de critères, et vous voyez que dans le temps, les critères s'ajoutent. Cette liste de critères, en fait, elle n'a pas vocation à être connue par cœur. Elle n'a pas vocation à être déclinée critère par critère. Elle a surtout vocation à nous interpeller sur qu'est-ce que c'est que être dans un espace collectif de travail et de se respecter, de prendre en considération les uns et les autres, de ne pas traiter inégalement, inégalitairement les personnes, de ne pas se laisser aller simplement à nos préjugés. Et donc, ces questions de lutte contre les discriminations, ils sont liés aussi à ce que nous pouvons faire en matière d'égalité. Et surtout, il faut qu'on guette et que nous piégions, en fait, et tous les dispositifs qui viennent d'être évoqués par Marie-Ange et d'autres encore, ont vocation à interpeller les uns et les autres sur « vous croyez que vous travaillez normalement, que vous faites les choses correctement, mais en fait, vos actions peuvent, votre manière d'être, votre manière de regarder l'autre, votre manière de l'interpeller, les moments où vous en avez ras-le-bol et vous l'exprimez devant un tel et un tel, sont des signifiants pour la personne concernée. La manière dont on recrute, les questions qu'on pose au moment du recrutement, les questions qu'on pose au moment de l'évaluation professionnelle, pourquoi on les pose à un tel plutôt qu'à un tel autre, plutôt qu'à un tel autre. Pourquoi, pour les femmes, on va être un peu plus exigeant et on va d'un seul coup être intéressé par l'univers privé des femmes avant de finaliser leur évaluation, leur promotion, et pas pour les hommes, comme s'ils n'étaient pas chargés des mêmes choses. Donc, c'est pareil. S'il y a une personne en situation de handicap, même quelquefois, on sait par exemple qu'au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, il y a des personnes en situation de handicap qui préfèrent ne pas le dire. C'est un problème pour nous, parce qu'au niveau ressources humaines et même au niveau budgétaire, même pour eux, on a besoin de les accompagner si nécessaire. Mais si ils se sentent, presque obligés de le taire, c'est probablement que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire aussi que si ils n'ont pas la certitude, ils n'ont pas la sécurité de savoir qu'ils seraient traités comme tout à chacun. Mmh. Et donc ça, c'est un travail de confiance à établir. Et vous voyez, sur l'ensemble de ces critères, j'ai décliné volontairement des exemples sur les femmes, sur les personnes en situation de handicap, mais ça pourrait être aussi les personnes issues d'immigration ou qui sont noires, etc. Enfin, on imagine toutes sortes de situations. Hein, parce que, précisément, ce qui doit primer, précisément, c'est comment est-ce que ce qui prime au-dessus et l'intérêt supérieur, d'une certaine façon, c'est d'abord que les uns et les autres, et les unes et les autres, se sentent pleinement respectés dans l'exercice de leur travail, à titre personnel, mais aussi à titre professionnel. Et puis surtout, que leur comportement les aide collectivement à vivre et à rendre un service public de qualité tel qu'il est attendu.
Est-ce qu'il n'y a pas des actions plus spécifiques pour les managers quand même? Parce que ceux qui doivent veiller à l'environnement de travail, ça reste les responsables hiérarchiques.
Vous avez mis le doigt sur l'essentiel, c'est-à-dire que, évidemment, que tout le monde doit être sensibilisé. Le travail que fait Marie-Ange et d'autres formateurs à la police, du côté de la sécurité civile, chez nos amis sapeurs-pompiers, mais aussi dans l'administration, les sous-préfets, les directions déconcentrées de l'État. Toutes ces actions sont essentielles, mais on le sait bien, on a commencé comme ça d'ailleurs dans l'établissement public où je travaillais, pour y refaire un peu référence, on avait assisté à la création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, la HALD, dans son temps, et c'était un lancement, c'était là qu'on lançait vraiment une vraie politique publique de sensibilisation sur les questions de discrimination. Et à l'époque, on disait des choses très fortes pour interpeller la société française, c'est-à-dire que, et notamment les employeurs, les entreprises, mais aussi les services de l'État, c'est-à-dire que quand il y a une discrimination et que les personnes qui vivent une discrimination sont affligées d'une espèce de mort sociale. Voilà. Donc c'est très violent de dire ça, parce que heureusement qu'aujourd'hui on est bien avancé, puisque précisément il a fallu être assez dur et assez, d'une certaine façon, assez radical. Encore que certains encore vivent des situations de cette nature, probablement pas chez nous, mais peut-être dans la vie de tous les jours, au regard de du rapport et du bilan que fait la défenseur des droits, on voit bien qu'il y a des situations encore dramatiques. Ce qui est essentiel, c'est que dans l'entreprise, c'est organisé hiérarchiquement. Et a fortiori, dans un ministère, je dirais encore plus dans un ministère du régalien.
Et de la protection.
Et voilà, de la crise, de la protection. La question de la hiérarchie et de la chaîne de commande, elle est essentielle. Et donc, si les instructions, si les enjeux que j'évoquais tout à l'heure ne sont pas partagés et portés par les directeurs eux-mêmes et à un plus haut niveau, et ensuite par les différentes hiérarchies intermédiaires, bien en fait, on pourra toujours envoyer les gardiens de la paix, par exemple, ou les gendarmes se former. Mais enfin, si c'est sans enjeu-là d'égalité, de lutte, de non-discrimination, de non-sexisme, si ces sujets-là ne sont pas pris en considération par les autorités, bah c'est clair que ça va s'éteindre. Ça sera jamais perdu, mais ça ne va pas avoir d'effet et d'impact sur le changement des pratiques, justement. Or, c'est ça que nous voulons. Pour donner un exemple, la dernière fois que on a malheureusement plusieurs exemples dans la vie quotidienne, mais s'agissant de notre ministère, quand dans un commissariat, un gardien de la paix fait l'erreur de ne pas raccrocher et qu'il se laisse aller à des injures à l'attention de la plaignante, eh bien, ça fait des ravages. Ça fait des ravages et tout ce qui a été fait dans ce sens est d'un seul coup balayé d'un trait. Et donc ça nous réinterpelle à chaque fois sur comment on fait mieux, encore mieux. Et il ne s'agit pas juste d'éteindre, de bien raccrocher son téléphone et puis de continuer à dire
les choses. Il faut changer les mentalités.
Il faut changer les mentalités, il faut d'abord changer les pratiques. Sanctionner quand les choses dérivent. Mais il est important aussi que les collègues, que le collectif
l'entourage.
De travail, l'entourage
ne laisse pas passer.
Ne laisse ça. Pas passer, exactement.
Il faut avoir du courage pour faire ça. Ce n'est pas simple de dire à son chef, tu me discrimines ou ce que tu fais subir à ma collègue, ce n'est pas normal.
Un chef doit pouvoir dire des choses de cette nature-là, que ce soit, même quand il s'agit simplement d'une expression de ras-le-bol, d'une plainte qui n'ira pas à son terme alors que toute la procédure a été engagée, etc. Et tout ça. Même quand il s'agit de ça, on n'a pas à parler comme ça. On n'a pas à dire cela. Et ça, c'est pas courageux de le dire. C'est dans l'exercice de notre métier, c'est une obligation de le dire. Il y a des choses dans la ressource humaine, dans la direction de nos équipes, dans l'encadrement que nous faisons aujourd'hui, nous avons une obligation d'interdire ce qui est interdit. Voilà. Et les blagues sexistes, etc., on sait où elles mènent. Parce que certains nous diront, mais c'est des rigolades. On a
entendu souvent.
On a plein de sujets, bien sûr, plein de sujets de rigolades. Alors, c'est un ministère qui est engagé. Hein. D'abord, Camille, vous êtes la porte-parole du ministère de l'Intérieur. Hein. C'est pas un hasard, c'est la première fois qu'il y a une femme. Hein. Maintenant, on nomme des femmes facilement, pas suffisamment en nombre d'ailleurs, mais quand même. Mais là, c'est un engagement fort, puisque c'est une femme qui est donnée à voir par l'ensemble des médias, et qui fait l'interface entre le ministère sur l'ensemble des sujets du ministère et la société civile. Donc c'est quand même assez important. Donc c'est pas courageux, c'est obligatoire. C'est obligé, c'est consubstantiel, c'est-à-dire que c'est complètement, ça doit s'inscrire maintenant dans les responsabilités des autorités d'encadrement.
Vous, Marie-Ange, vous avez déjà été confrontée comme ça, des personnes qui ne savent pas comment aborder ça avec leur supérieur hiérarchique, parce qu'ils ne sentent peut-être pas la sensibilité que vous avez, vous ou d'autres, sur ces questions-là. Comment on fait ça ?
C'est compliqué. Oui. Effectivement, ça arrive justement qu'ils ne savent pas comment
verbaliser,
comment approcher leur chef. Est-ce que ça va être mal interprété ? Est-ce que c'est la bonne... Donc, pour ce faire, heureusement, ils ont, comme je vous expliquais, il y a des référents à tous les niveaux. Donc, ils vont voir leurs camarades. Mais il y a également de la concertation, des personnes qui sont là pour échanger avec eux.
Il n'y a pas de syndicat dans la gendarmerie
chez nous. Non, mais il y a de la concertation, donc ça se passe plutôt bien.
Il y a aussi du signalement.
Et il y a également du signalement au pire. Enfin, je dirais au pire, quand vraiment on a...
Ce n'est pas forcément la première méthode signalée, il faut mieux essayer d'en parler.
C'est ce que je explique, c'est au départ, on leur précise qu'il faut en parler aux camarades. Quand ça ne va pas, vous en parlez aux camarades. Mais comme je dis également aux camarades, si vous voyez une personne qui, d'un seul coup, change, qu'elle est différente, qu'elle a un comportement, qu'elle se renferme sur elle-même, qu'elle s'isole, qu'elle ne va plus au café...
Et les risques psychosociaux.
Voilà, là, il doit y avoir une lumière qui doit s'allumer en disant, attention, il y a quelque chose qui ne va pas.
Et comme les gens qui pleurent au service.
Voilà. Et lorsqu'on est au café, comme j'explique à chaque fois, on rit avec, on ne rit pas d'eux, on fait attention, hein, il n'y a pas de blague potache, parce que parfois la personne elle rira, mais contre sa volonté, parce qu'elle veut faire comme les autres, et ce n'est pas bon ça. Donc c'est pour ça qu'on explique aux camarades que chacun est responsable de l'autre au final. Et tout à l'heure vous parliez de, il faut faire changer les mentalités, je dirais, il faut les faire évoluer. Parce que ce n'est pas facile de changer une mentalité, mais la faire évoluer, on peut. Et c'est pour ça qu'on forme les personnes. Et en gendarmerie, il y a des formations initiales pour toutes les personnes. Désormais, tout le monde est formé chez nous, à tous les niveaux, hein, que ce soit le gendarme adjoint ou l'élève gendarme, au commandant de région, c'est-à-dire au général, tout le monde a une sensibilisation, une formation. Et ce n'est pas qu'une. Tout au long de la carrière, la personne, elle va avoir, entre guillemets, des piqûres de rappel, en fonction également de l'actualité du moment de la société. L'année dernière, on a beaucoup, beaucoup sensibilisé sur les LGBT par rapport, je dirais, à la définition des termes. Parce que des personnes me disaient, on ne comprend plus, LGBT-phobie, LGBTQIA, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Et en fait, on s'est rendu compte que...
C'est de la méconnaissance.
C'est ça, qu'il pouvait avoir de la discrimination parce qu'il y avait une méconnaissance des mots, des termes. Donc c'est pour ça qu'on leur a expliqué ce qu'étaient ces termes. On leur a donné des définitions pour non-binaire, queer, je sais pas, gender fluide, pansexuel, avec l'aide des associations avec lesquelles nous sommes sous convention. Donc ça, c'est vraiment important. Ce qu'il faut, c'est communiquer, il faut former et il faut apprendre. Ce qui nous fait peur, c'est les choses qu'on n'appréhende pas. Et donc ça, c'est hyper important. Donc c'est pour ça que je tenais à en faire part... De l'enseignement en continu. Et au niveau des sanctions, en gendarmerie, et comme partout au sein du ministère, nous, c'est tolérance zéro. Parce que déjà, un, ne pas agir, c'est consentir. Donc, on doit réagir. Et puis, surtout, dès qu'il y a un manquement, on doit le sanctionner. Donc, au niveau de la gendarmerie, comme les autres périmètres, on mène des campagnes de sensibilisation, de prévention pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Mais à partir du moment où il y a un manquement, c'est la sanction. Et on va très très loin, puisque ça peut aller jusqu'à la radiation des cadres. Il y a également des articles 40, c'est suivi au pénal. Voilà. Donc ça va très loin.
Du côté de la police et dans le reste du ministère, c'est la même chose.
C'est pareil. C'est un peu mon rôle, ça aussi, de veiller à ce que les uns et les autres avancent un peu de manière concomitante et à peu près dans le même rythme, même si la réalité des métiers des uns et des autres n'est pas tout à fait la même. Mais quand même, les exigences sont les mêmes, puisqu'il s'agit d'être à la hauteur aussi de nos engagements, qui sont aussi des engagements du président de la République, du gouvernement. Donc, on a une feuille de route à suivre de ce point de vue-là. Mais quand même, il y a une réalité qui est le rythme de la police, le rythme de la gendarmerie. Les métiers sont communs et en même temps ont des caractéristiques particulières. Et c'est pour ça que je parlais de cellules de signalement. Il y a quand même des cellules de signalement, même si il faut pas attendre de faire ça. N'empêche que c'est extrêmement important. Donc tous les ministères se sont dotés de cellules de signalement.
C'est-à-dire que c'est un numéro de téléphone, c'est une plateforme en ligne.
Ça veut dire que quand on se sent discriminé, quand on estime qu'on est victime de harcèlement ou d'une discrimination ou d'une situation en tout cas anormale, on a une corde de rappel qui est on a un numéro, on appelle, il y a une procédure, il y a quelqu'un qui vous écoute et qui donnera suite, quoi qu'il en soit, qui donnera suite. Ces suites peuvent aller jusqu'à à de grosses sanctions, dont la radiation. Donc, et ça s'est déjà vu au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer qu'on aille jusque-là. Mais en tout cas, pour la police, cette plateforme de signalement, elle est gérée par l'inspection générale de la police nationale. Pour la gendarmerie, c'est l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Pour l'administration, l'ensemble des métiers de l'administration territoriale, c'est géré par le secrétaire général dans des services sur lesquels on essaye de faire intervenir à chaque fois des tiers médiation, en fait, qui vont voir ce qu'il se passe, l'objectif étant non pas d'étouffer, mais de comprendre et d'essayer de mieux qualifier la situation. Alors, il se trouve que l'essentiel des signalements, tout métier confondu, concerne le harcèlement moral. Et le harcèlement moral, on le voit bien, ça c'est un sujet sur lequel on doit se concentrer, c'est le signe quand même que les gens confondent tout. Et dans le harcèlement moral, en fait, il y a quelque chose qui est un peu fourre-tout. Et il faut aller regarder ce qui est du harcèlement moral réel, hein. Parce que dans l'exercice de ses fonctions, un agent peut se sentir pointé du doigt, stigmatisé, traité de manière totalement différenciée, jusqu'au harcèlement, quoi. Donc là, on a une responsabilité.
Il faut bien qualifier les choses, bien nommer les choses.
Il faut nommer pour traiter. Bien nommer, c'est déjà la moitié du chemin. Donc, ces signalements, ils servent à ça, ils servent à ça. Et alors, sur le thème, donc, on a harcèlement moral. Donc, c'est important d'aller expliquer ce que c'est que le harcèlement moral, sur le ce qu'est une discrimination, ce qu'est autre, tous les critères, justement. C'est l'occasion que les plateformes d'écoute fassent savoir, soit faire œuvre pédagogique pour expliquer ce que ça recouvre, les définitions, enfin tout ce qu'expliquait Marie-Ange à l'instant, et qui est fait à la police, à la gendarmerie, et dans ça c'est important. Je fais un clin d'œil parce que c'est important de que ces sujets-là soient bien compris, que c'est tout le ministère qui est engagé dans l'action. Et puis en termes de catégories de discrimination, en fait, qui sont pointées du doigt, les premières qui arrivent, c'est sur le handicap. Là où personne n'attendait cela. Parce que, évidemment, au regard du nombre de personnes en situation de handicap sur le plan officiel que nous avons, on est loin du compte, si vous voulez. Normalement, on ne devrait pas avoir un taux de signalement qui concerne plus particulièrement au regard du handicap. Et bien, le handicap arrive en premier. Et puis, la question du sexisme arrive bien, bien plus loin. Et puis, on a ensuite sur les questions de discrimination, et notamment à l'origine. Et ça, c'est un sujet sur lequel on doit travailler. Parce qu'on voit bien que ces sujets-là, personne en situation de handicap, et le handicap, c'est pas qu'une personne en fauteuil. Hein. Faut vraiment garder ça en tête. C'est qu'il y a des handicaps non visibles qui sont liés, qui peuvent avoir des conséquences sur l'élocution, sur des choses comme ça, etc. Ou sur la rapidité, sur les réflexes, etc. Et donc, qui peuvent faire l'objet ensuite de dénigrement, etc. Et donc, les personnes peuvent avoir ce sentiment-là d'être montrées du doigt. Donc, ces sujets, il faut qu'ils fassent l'objet maintenant d'un travail, et sur ces questions de handicap ou de personnes en situation, ou personnes issues d'immigration, il faut qu'on aille plus loin. Et les signalements qu'on collecte doivent à la fois, et ils le sont, suivis des faits. Ces effets sont présentés aux organisations syndicales du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, c'est important, puisqu'elles suivent. On aimerait, et elles vont, s'associer davantage à cette politique publique-là, puisque c'est une politique publique qui concerne les agents, tous les agents, donc les organisations syndicales, elles ont toute leur place. Et on les rencontre assez régulièrement pour pouvoir travailler sur ces questions-là. Et nous avons à continuer le travail de sensibilisation sur ces sujets.
Alors justement, l'avenir, vous avez des priorités pour la suite déjà. Côté gendarmerie, est-ce que vous avez des priorités plus prioritaires? Vous voyez ce que je veux dire?
Des priorités plus prioritaires.
Des chevaux de combat.
Des chevaux de combat. On va, je dirais oui, le plan d'action, puisque là, on va s'engager sur un... Là, on fait partie de groupes de travail sur le plan d'action ministériel donc pour l'année, à partir de 2024. Au niveau de la gendarmerie, c'est pareil, on va s'inscrire également dans cette démarche. Actuellement, nous aussi, on fait des recherches pour, je dirais, toujours pour améliorer la qualité de vie, mais surtout le temps de vie au travail, enfin, l'équilibre des temps de vie entre la vie pro et la vie perso, parce qu'on se rend compte que les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui au sein de l'institution, elles privilégient en premier la qualité de vie au travail, c'est-à-dire elles veulent être bien, elles veulent être épanouies. C'est pas une question d'argent, voilà, c'est une question de bonne entente, et pour elles, c'est important. Et elle veut également que la situation de famille, enfin que la famille suive. Notamment, je parle des mamans. Il n'y a pas que les mamans, il y a les jeunes papas célibataires. Et ça, c'est important également en prendre en compte. Donc là, on est en train de voir pour faire des GT sur la grossesse.
Des GT.
Oui, pardon.
Des groupes de travail.
Des groupes de travail.
Ah, je voulais poser la question, oui, des femmes enceintes dans des métiers.
Voilà, c'est pas toujours facile.
Les forces de l'ordre, c'est pas simple.
Parfois, on se rend compte que les femmes, je ne dirais pas qu'elles s'auto-limitent, mais elles ne communiquent pas sur la grossesse, ou elles attendent le dernier moment, ou elles ont toujours peur d'eux, et on ne sait pas comment appréhender. Donc là, on a fait un guide de la parentalité, mais on est en train de voir justement, dans le cadre du prochain plan d'action, comment faire pour je dirais, accompagner ces femmes, ces futures mamans.
Et leur chef aussi.
Et leur chef surtout, et puis surtout le retour, parce que bon, lorsqu'elles sont enceintes et tout, elles continuent à être au travail, après... elles ont parfois elles sont au bureau plutôt qu'aller sur le terrain en fonction de la grossesse et de l'avancée. Mais après, c'est le retour. Elles m'expliquaient que c'est pas toujours facile après de reprendre le boulot. Une fois qu'on a avec bébé et tout à la maison, c'est compliqué parce que c'est passé des choses et on a loupé parfois des moments au niveau du travail. Donc, comment accompagner ces femmes à la reprise? Donc, ça, c'est hyper important.
Des beaux enjeux d'avenir.
C'est des beaux enjeux, absolument.
Et vous, Fadela? Pour l'avenir, qu'est-ce que vous voyez?
Pour l'avenir, ce que vient de dire Marie-Ange est un élément de la démarche qu'on doit porter. Il y a deux gros sujets que tout le monde doit comprendre, en fait, au sein de notre ministère. C'est que lutter contre les discriminations, pour la diversité incluant le handicap, etc. Et lutter pour continuer à avancer sur les questions d'égalité professionnelle femmes-hommes, c'est l'un et l'autre sont complètement liés. Donc on a un vrai sujet sur, et ça va être, on a fait déjà des efforts, mais parce que les lois nous y obligent aussi, mais du coup bah, y a beaucoup plus d'engagement du ministère autour de sur les questions d'égalité, de la mixité de nos métiers. Et on voit bien que du côté force de sécurité, on a encore un petit rattrapage. Hein. Donc il faut qu'on rende nos métiers beaucoup plus mixtes aujourd'hui. Ils ne le sont pas. On a 30% de femmes pour l'ensemble de notre ministère. Bon, 300 000 agents, 30% de femmes.
Ce n'est pas 50.
Et puis en plus, il faut savoir que ces 30% on est à 30% parce que les métiers de l'administration, eux, sont à 70%.
Ça vient compenser.
70% féminins. Voilà, donc les forces de sécurité, elles sont encore très très masculines. Donc on est loin de l'époque déjà où dans les années 70, on avait des affiches de recrutement de la police avec qui montraient policier, un métier d'homme.
Ça a bien changé.
On a bien changé, mais il y a encore un travail à faire. Et ça, c'est aussi un visage nouveau à donner. Et à montrer de nos métiers, de l'ensemble de nos métiers. Donc, mixité dans tous les métiers, c'est-à-dire que ne pas réserver simplement... Alors, pour qu'il y ait de la mixité, eh bien, il faut rendre attractif c'est l'ensemble des postes de direction, mais aussi tous les postes qui sont des postes à risque, qui sont des postes virils, considérés comme tels, etc. Donc, il y a beaucoup de travail à faire sur les concours, sur les sélections, etc. Donc, ça, tout ça est en cours dans le ministère. Et la gendarmerie a fait beaucoup, mais la police aussi. Voilà. Donc, il y a ce travail-là à faire, qui est un travail quand même très, très important. Mais ça ne peut pas se faire et s'installer si on ne travaille pas sur les préjugés. Et donc, tous les préjugés qui peuvent produire, in fine, des pratiques discriminatoires. Donc, les questions de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, c'est pas une question qui s'adresse uniquement aux femmes. Puisque quand on s'intéresse à la bonne conciliation de la vie professionnelle et vie privée, en fait, qui est gagnant ? Bah, tout le monde est gagnant. Parce que les hommes peuvent prendre leur congé pour ça, les femmes peuvent le faire, on peut être attentif à cela. Et puis le sujet d'évoquer un argument lié à ses enfants, qui était réservé aux femmes jusque-là, eh bien là, va devenir aussi un sujet qui peut être porté, un objet du quotidien dans la gestion des ressources humaines. Donc ces questions-là vont être essentielles. Vous voyez qu'il faut qu'on travaille sur tout pour avancer sur ces sujets, sur ces questions. Et puis pour être assez exemplaire et ne pas être en retrait par rapport à la société civile. Les gens vivent, vous-même, moi-même, tous nos concitoyens vivent, ne vivent pas dans des colonnes avec des mesures, des dispositifs, ça n'existe pas, heureusement. Ils vivent dans un quotidien où tout se mêle, où ils sont obligés de faire des compromis et de choisir et de faire des concessions sur le temps qui passe là, des partages, des répartitions avec le conjoint, la conjointe, etc. De faire avec les enfants, éventuellement s'il y en a un qui est plutôt homosexuel, etc. Eh bien, ils vivent toutes ces questions-là. Et donc, toutes ces questions-là, nous devons les intégrer. Je voudrais juste indiquer que précisément, on a pas mal évolué au ministère. On s'est aussi adjoint le concours d'associations qui nous secoue aussi un petit peu, notamment SOS Homophobie, mais FLAG aussi, sur notamment les sujets de lutte contre l'homophobie et la sensibilisation nécessaire pour toutes nos équipes pour ne pas faire d'impair et encore une fois, ne pas tomber dans la discrimination ou dans la stigmatisation.
Eh bien, ce sera le mot de la fin, de rendre aussi hommage à toutes ces associations avec lesquelles on travaille et à tous ceux qui nous poussent.
Absolument.
Dans ce domaine-là.
Cette semaine va pouvoir
tout à fait. Une semaine importante. Merci Marie-Ange, merci Fadela. Bonne continuation à toutes
merci
les deux.
Merci à vous. Merci à
vous. Et nous, les et communicants, puis... si on peut vous aider, surtout dites-nous, parce qu'on a aussi notre part à jouer dans tout cela.
Vous avez toute votre place.
Avec grand plaisir, merci.
À bientôt.